Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Image en direct du campus de Austin. C'est au Texas, Austin, où des étudiants manifestent comme dans une douzaine d'universités américaines qui sont occupées, des manifestations pro-palestiniennes, des manifestations pour dénoncer l'arrestation de manifestants pro-palestiniens il y a quelques heures déjà du côté de Los Angeles. Bref, la colère contre Israël sur les campus américains va nous occuper une partie de cette émission. Je salue Tatiana Renard-Barzac, journaliste politique, Muriel Wakin-Melki, avocate présidente de l'OGIE, l'Organisation juive européenne, et puis Pierre Conessa, ancien fonctionnaire au ministère de la Défense et auteur de l'état des lieux, ou plutôt état des lieux du salafisme en France. Est si grave? La réponse, on l'a souvent dit, c'est oui, et c'est aux éditions de l'Aube. On va, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous faire écouter ce soir, je veux vraiment qu'on commence par écouter des séquences qui sont des appels au meurtre contre les juifs, des appels antisémites. Ça prend une dimension politique. Vous savez donc qu'il y a une quinzaine de campus qui sont occupés. Ces dernières heures, et je le disais tout à l'heure, il y a eu des interventions musclées de la part de la police. On va voir les images. Ça s'est passé à Los Angeles. La police est également intervenue à Boston, dans l'Illinois, pour mettre fin à des manifestations ou des sit-ins. On n'avait pas vu ça depuis 68, depuis les manifestations étudiantes contre la guerre du Vietnam, il me semble, Pierre Colessa.
Oui, ouais, ouais. C'est effectivement un rapprochement qu'il faut faire, parce qu'autant à l'époque, les Américains étaient directement impliqués dans une guerre que les étudiants trouvaient tout à fait inique, autant là, on est sur un déplacement extraordinaire d'un conflit extérieur sur le terrain intérieur. Et tous ces glissements qui font que le soutien du Hamas se dérive dans l'antisémitisme, et à l'inverse que la dénonciation du Hamas se dérive dans une espèce d'islamophobie, ça c'est extrêmement grave, parce que c'est ici que la chose risque de dériver.
Bon, sauf que là, on interdit quand même à des étudiants juifs de rentrer, de passer, d'accéder au campus, avec des slogans tout à fait hostiles. Premier extrait, c'était il y a quelques jours à l'université de Columbia. Donne-leur l'enfer, nous sommes fiers de toi, Al-Qassam, le Hamas, nous sommes avec toi, nous soutenons tes tirs, tes missiles, tes roquettes. Muriel. Ça se passe en France, normalement, y a ça se passe devant les tribunaux. Ce sont des propos.
Oui, bien sûr, évidemment, ce sont des appels à la haine explicites, des apologies du terrorisme en cascade. On avait eu, en France, en 2014, l'été 2014, on avait eu des manifestations dans Paris où des cris de mort aux Juifs avaient résonné. Nous, c'est comme ça que notre organisation s'est créée. C'est justement pour répondre à ce qui s'était passé en 2014. Et ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis est dramatique, parce que je n'ose imaginer l'état dans lequel doivent être ces étudiants qui ont réussi à intégrer des universités aussi prestigieuses. C'est le parcours du combattant pour entrer à Harvard ou pour entrer à Columbia. Donc on imagine un petit peu tous les efforts qui ont été fournis pour que ça se termine comme ça.
Oh, oui, là quand même les mots qui sont employés, on n'est plus simplement, parce qu'on présente ça souvent comme des manifestations pro-palestiniennes pour dénoncer le génocide, etc. C'est bien plus loin, hein. C'est bien plus loin que ça, Tatiana.
Je rappelle quand même qu'à Columbia, je crois qu'il y a environ 5000 étudiants juifs sur 30 000 environ étudiants. C'est quand même colossal. Donc là, je rejoins vraiment Muriel. C'est-à-dire que c'est ces étudiants qui vivent la peur au ventre. On a vu ces images aussi de ces profs, ces deux profs, ce prof d'histoire notamment, qui ont été interdits d'accès, leur badge désactivé.
On a coupé le badge.
Voilà, on a carrément coupé le badge. Donc on revient quand même à des temps extrêmement noirs de notre histoire. Genre, c'est quand même, il faut quand même le dire, c'est là, on est quand même à un stade où on atteint une ligne rouge. Et Joe Biden est même intervenu d'ailleurs ce lundi en disant qu'il fallait arrêter ses propos antisémites et ses actes dans les universités.
C'est pas lui directement, c'est la Maison Blanche d'ailleurs. Mais on va en reparler. Toujours sur ce campus de Columbia, deuxième séquence, vous allez voir que là, les étudiants reprennent mot pour mot les mots des terroristes du Hamas et aussi les mots qui ont été prononcés en Iran. Regardez.
Hey, remember the 7th of October.
Never forget the 7th of October.
That will happen.
Never forget the 7th of October.
Not one more time. Not five more times. Not 10 more times. Not 100 more times. Not 1,000 more times.
Not
10,000 times.
You ready? 7th of October is about to be every day.
Voilà, Pierre connaît ça. On a entendu déjà ces mots qui sont repris dans la rue et qui sont là adressés à des étudiants juifs, évidemment.
Oui, c'est d'autant plus insupportable, si vous voulez, que tous ces gens-là sont d'autant plus virulents qu'ils ne vont pas sur place. Hein. Ils ont pas, on est dans une génération où on dénonce les choses à distance, mais ils ne vont pas aller se battre avec le Hamas. Hein,
mais vous êtes
un Américain, ils sont bien installés là-bas. Et il joue ce rôle de dénonciation. Et encore une fois, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'on est en train d'intégrer cette espèce d'opposition raciste dans les deux cas. Hein. Parce que moi, personnellement, mon analyse de la crise, c'est qu'il y a trois radicalismes face à face. Hein. N'oubliez pas, il y a le Hamas, évidemment. Il y a Netanyahou, qui ne veut pas arrêter du tout. Et puis, il y a l'Iran qui est venu mettre son grain de sel.
Donc, est-ce que vraiment on peut mettre dos à dos
Il faut être très, très modéré dans l'analyse. Vous savez, aujourd'hui, quand on est aux alentours de 20 000 morts du côté de Gaza, on a quand même de quoi penser que la situation à Gaza n'est pas acceptable. Donc, il faut faire attention. Netanyahou, ce n'est pas parce qu'il est élu qu'il n'est pas un radical. Il est un extrémiste.
Bon, autre chose à votre...
Là, ce n'est pas de ça dont on parle, en fait. J'entends ce que vous dites. Ce qu'on voit là, ce qui se passe à Columbia, je crois qu'on n'est pas du tout sur la défense des Palestiniens, on n'est pas du tout au soutien des Palestiniens. On est sur quelque chose qui me semble frisé de manière extrêmement dangereuse avec la folie. Vous entendez les propos qui sont tenus ? Vous captez les propos qui sont tenus ? Vous imaginez ? Est-ce que ça pourrait être un étudiant qui viendrait avec une kippa sur la tête à ce moment-là ?
Écoutez, je vous en montre un. Voilà, ça, c'est, la séquence est passée à Yale. Vous allez voir comment on empêche les étudiants juifs d'accéder à la fac. On va voir l'image. On a bien compris là qu'il s'agit... l'étudiant en question, il est là, il est devant. Donc on fait une sorte de cordon, hein, de cordon pour l'empêcher tout simplement de rentrer. Si on peut l'humilier, c'est mieux. Si on peut le provoquer, c'est mieux. Si on peut l'intimider, c'est mieux.
Muriel. Oui, mais ce même étudiant, au moment où on a les images où ça crie 5000 morts, 10000 morts, une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10000 fois le 7 octobre, moi je ne donne pas cher de sa peau. Hein. Cet étudiant-là ne s'en serait pas bien sorti à ce moment-là. Là, il est pris sur quelque chose qui est extrêmement désagréable. On lui interdit l'accès à son université et c'est absolument redoutable comme situation à vivre. C'est humiliant, c'est dégradant. Je n'ai pas suffisamment de mots pour le qualifier, mais pour moi, on est très très loin. Très très loin de s'intéresser à la cause palestinienne à Columbia. On n'est pas sur ça. On est sur de l'antisémitisme qui s'est totalement décomplexé, totalement lâché, sans bornes et sans limites.
Pour illustrer vos propos et avant de donner la parole à Tatiana, dernière séquence, à nouveau à Columbia contre des étudiants juifs. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté.
L'antisémitisme primaire, hein, le retour de l'antisémitisme le plus abject. Apparemment, une ignorance comme absolue et de l'histoire et aussi de l'histoire du conflit israélo-palestinien. Et puis une radicalité de la jeunesse qu'on observe d'ailleurs aujourd'hui aussi dans nos propres universités. Une radicalisation avec un antisémitisme qui se cache derrière de l'antisionisme et de l'anticolonialisme.
Je vous montre cette photo. Je vous montre cette photo qui a tourné beaucoup sur les réseaux sociaux parce que la comparaison, en fait, j'ai commencé en disant c'est le Vietnam, mais la comparaison c'est celle-là. Autriche 1938, États-Unis 2024. On empêche à les étudiants juifs d'accéder à leurs universités. C'est ça la juste comparaison en réalité. Pierre connaît ça.
Oui, et encore une fois, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que rappelez-vous, on a vu la même scène à Sciences Po.
On va parler de Sciences Po.
Non, je veux dire, on l'a vu en France, c'est pas la peine d'aller aux États-Unis. Encore une fois, c'était le refus de la discussion avec l'autre. On interdisait à un type parce qu'il était, dénoncé comme sioniste. Hein. Attention, c'était les gens qui étaient dans l'audience ne savaient même pas qu'il était juif, qu'il était sioniste. La simple dénonciation a suffi pour lui faire interdire l'entrée. Donc on est sur quelque chose qui est en train de se déplacer sur notre territoire, sur lequel, si les autorités politiques ne sévissent pas, ne sévissent pas sur tout ce qui sont ces dérives-là, on va effectivement vers une forme de guerre civile. Et la guerre se passera chez nous, elle ne se passera pas là-bas parce qu'ils ne vont pas y aller. Hein.
Je ne sais pas si ça se déplace sur notre territoire, pardon, mais enfin... D'abord, je constate quand même que là, on est sur la deuxième communauté juive la plus importante du monde des États-Unis, troisième en France. Donc ça pose quand même aussi une vraie question.
On s'est toujours dit que les Juifs aux États-Unis sont hyper protégés.
On explique qu'ils n'ont pas connu la Deuxième Guerre mondiale,
c'était loin.
Bien sûr.
Ils n'ont pas connu le même antisémitisme.
C'est ce que je vous dis, il y a quand même une ignorance aussi là, historique de ce qui s'est passé à travers le monde, la persécution des Juifs, etc., qui est absolument terrifiante. Et puis, dernière petite chose quand même pour rebondir sur ce qui a été montré avant. Je me souviens quand même de cette population américaine terrorisée par les images, notamment de leur otage Daniel Pearl. Souvenez-vous, décapité par Daesh. J'aimerais juste qu'ils se remémorent les 129 otages à l'heure actuelle aux mains du Hamas depuis plus de 6 mois maintenant, victimes de violences sexuelles, psychologiques et physiques. Et donc j'aimerais qu'on leur repasse ces images juste pour leur rafraîchir un tout petit peu la mémoire.
Bon, Joe Biden, vous en avez parlé... Il est quand même assez discret. Il y a des raisons politiques, évidemment, et de scrutin qui arrivent. Cela dit, hier, il était, et vous allez voir cette photo avec la plus jeune des otages qui a été libérée, Abigail Dan, qui a 4 ans, qui est orpheline. Il l'a reçue hier à la Maison Blanche. Il a eu des mots très tendres pour cette jeune femme. Mais c'est vrai que ces dernières heures, c'est la porte-parole de la Maison Blanche qui a dit, nous pensons qu'il est important que les gens puissent s'exprimer de manière pacifique, mais en cas de rhétorique haineuse, en cas de violence, nous devons le dénoncer. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même à minima cette déclaration, probablement parce qu'il y a des intérêts électoraux en ce moment et que Joe Biden compte aussi sur le vote de ces jeunes gens là, qu'on a vus, qui manifestent, pour le soutenir en réalité. Et que lui, sa campagne, elle est quand même financée pas par n'importe qui, sans doute par les gros portefeuilles juifs des États-Unis, il en reste encore.
Mais... Les gens qui manifestent dans ces universités pour soutenir la Palestine, sont-ils des électeurs? C'est ça ma question. C'est-à-dire, vous avez effectivement des Palestiniens...
Ils ne vont pas voter pour Trump.
Non, d'accord, mais je veux dire, ce qu'on ne sait pas, c'est effectivement l'effet électoral de ces manifestations, sauf cette espèce de fissure qui s'est créée dans l'opinion publique américaine, dans le soutien à Israël. Et donc ça, il faut se demander pourquoi ça se passe. C'est aussi parce qu'on a en face... Rappelez-vous que l'AIPAC est très critique à l'encontre de Netanyahou. Netanyahou mène une guerre... Une guerre qui ressemble beaucoup à une guerre d'extermination. Et donc, n'importe quel individu qui n'est ni juif ni musulman et qui est laïque ne peut aussi qu'à certains moments considérer que c'est excessif.
Je ne suis pas d'accord avec ce terme de guerre d'extermination.
Je crois que le lexique est important. On peut commencer à considérer que la situation est grave.
On peut considérer qu'elle est grave.
30 000 en effet morts à Gaza, a priori, et c'est absolument terrifiant, la situation est dramatique. Mais en étant aussi nuancé par ailleurs dans ses propos, parce que parler d'une guerre d'extermination quand c'est une guerre qui a été décidée parce que c'était une attaque d'abord terroriste, je pense que c'est un peu limite comme proposition.
Est-ce que vous êtes allé à Gaza ?
Oui.
Alors vous avez vu ce que c'est, Gaza ?
Non, actuellement.
C'est un espèce de ghetto. C'est un espèce de ghetto. Et ce ghetto fait la taille du territoire de Belfort. Au territoire de Belfort, il y a 50 000 personnes. À Gaza, il y a 1 300 000 personnes. Quand vous tirez en disant que vous visez des terroristes, vous savez qu'une bombe, ça ne fait pas la sélection.
Mais est-ce que ça justifie de demander de tuer des juifs et d'expliquer qu'il faut tuer des juifs et faire comme les brigades armées du Hamas? Est-ce que ça justifie cela comme propos?
Ça ne justifie pas, mais il faut aussi débrider.
Parce qu'on parle de ça, en fait, là, ce soir.
On parle de ça, mais vous ne pouvez pas ne pas tenir compte du fait que s'il y a cette fissure à l'intérieur de l'opinion publique américaine, c'est aussi parce que la posture de Netanyahou est une volonté d'exterminer la situation à Gaza.
C'est vrai qu'on a même entendu hier, on a passé des extraits d'interviews de jeunes gens qui sont juifs et qui manifestaient également sur ces campus. Mais je voulais vraiment vous entendre.
C'est la force du peuple juif, en fait.
J'entends pas.
C'est la force du peuple juif, en
fait.
La force du peuple juif, c'est d'avoir une situation et 10 opinions différentes, et 10 avis différents. Et cette tradition ancienne qu'on appelle le pile-poule, la possibilité de donner 36 explications pour un seul fait. Donc vous trouverez toujours des gens chez nous, dans notre communauté, pour venir dire qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, pour venir dire tout simplement qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique de Netanyahou, parce qu'Israël est une démocratie. Et que c'est donc possible de soutenir une position contraire à celle du président de l'État d'Israël. Donc ça, c'est dit, c'est posé. Maintenant, sur l'analyse de ce que vous voyez, de ce qui se déroule à Columbia, Moi, je ne peux pas comprendre, et je n'arrive pas à vous suivre, en fait, dans votre explication et dans la légitimation que vous êtes en train d'introduire sur ce que l'on voit, ces débordements à caractère antisémite qui sont effarants. Moi, je suis totalement atterrée par ce que je vois, par ces images que je reçois depuis 48 heures. Et je ne peux pas comprendre que vous fassiez un parallèle, en fait, entre ces images, entre cette haine qui est montée au sein du peuple américain, chez ses étudiants, et le fait qu'il y ait une politique qui soit menée à plus de 15 000 ou 20 000 kilomètres de là.
Bon, on écoute Benjamin Netanyahou sur ce qui se passe aux États-Unis.
Ce qui se passe dans les campus universitaires américains est horrible. Des foules antisémites ont pris le contrôle de grandes universités. Elles appellent à l'anéantissement d'Israël. Elles attaquent les étudiants juifs. Elles s'en prennent aux professeurs juifs. Cela rappelle ce qui s'est passé dans les universités allemandes dans les années 1930. C'est inadmissible, il faut y mettre un terme. Il faut les condamner, et les condamner sans équivoque.
Dans cette guerre d'images, je rappelle que ces dernières heures, le Hamas, les terroristes ont publié une vidéo abjecte d'un otage. Il se présente lui-même comme étant Hersch Goldberg Pauline, 23 ans, enlevé lors du festival de musique Nova. Dans la vidéo, il a raconté avoir été grièvement blessé et son avant-bras gauche, on ne le voit pas évidemment, on a flouté, puis c'est même un peu sous le bandeau, a été amputé un peu en dessus du coude. Ses parents ont dit être soulagés de le voir vivant, mais inquiets de son état de santé, évidemment. Et c'est une manière aussi de faire que la colère en Israël, parce qu'elle existe de la part des familles des otages, s'intensifie encore une fois un tout petit peu plus contre Benjamin Netanyahou. On a vu des manifestations importantes, Tatiana, ces dernières heures.
C'est le sens d'ailleurs de la vidéo qui a été diffusée, hein, en lui faisant dire justement que Benjamin Netanyahou a oublié les otages, ne vient pas les libérer. C'est toute la pression psychologique qui est mise sur ces otages depuis le début et ces mensonges qui sont délivrés aux otages pour leur faire croire qu'ils sont oubliés, perdus. C'est un système de propagande, hein, terroriste évidemment. Et c'est terrible parce que je rappelle quand même que la maman de cet otage, en l'occurrence, qui s'appelle Rachel, a justement fait une campagne très active à rencontrer Joe Biden notamment, le pape François, etc. Et de le voir là, voir cette vidéo, alors on ne sait pas exactement de quand elle date, mais a priori elle est plutôt récente.
Elle est récente, puisqu'il dit que ça fait presque 200 jours.
Il parle de 100 jours, mais de le voir amputé, en sachant qu'il s'était pris une grenade justement le jour de sa capture, on imagine dans quel état il a été amputé de son bras, et on pense aux 129 autres otages aujourd'hui, 128 a priori dans la bande de Gaza.
Je rappelle qu'il y a 3 franco-israéliens, comme tous les soirs on pense à eux, 202e jour de captivité pour Ofer, Ohad et Orion, dont nous réclamons la libération inconditionnelle. Sachez que les dirigeants de 18 pays, dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ont appelé aujourd'hui dans un texte commun à la libération immédiate de tous les otages retenus par le Hamas à Gaza. L'accord sur la table pour libérer les otages permettrait un cessez-le-feu immédiat et prolongé à Gaza, dit le texte qui a été diffusé par la Maison-Blanche. Un tel accord permettrait aussi de faciliter les livraisons accrues d'une aide humanitaire indispensable à travers Gaza et pourrait mener à une véritable fin des hostilités. Moi, j'ai l'impression que ça c'est comme les pétitions, ça sert à rien.
Oui, effectivement, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'encore une fois, si vous voulez, le massacre peut se poursuivre à Gaza.
Ou plutôt, ça dit l'impuissance, en fait, de ces 18 chefs d'État.
Bien sûr, oui. Ça dit l'impuissance parce qu'effectivement, on a plusieurs radicalistes face à face. Moi, je pense que Netanyahou est un radical et il pense régler la question de Gaza, si possible par l'extermination. Et quand même, quand on est dans cette situation-là, il y a un moment où il faut arrêter le compteur. Si on est effectivement à 20 000 ou 30 000 morts du côté de Gaza, on prépare la prochaine guerre. C'est-à-dire, comment pensez-vous que les enfants de ceux qui sont massacrés ne vont pas préparer le prochain conflit ?
À Mossoul, on a exterminé. À Mossoul, on a exterminé. À Raqqa, on a exterminé aussi. C'est les mots que vous utilisez ?
Je n'ai pas compris votre phrase.
Vous ne m'entendez pas ? Vous ne me comprenez pas ?
Non, je ne vous entends pas. Je suis désolé, parlez plus fort.
Très bien. Non, à Mossoul ou à Raqqa, parce que vous avez utilisé le terme exterminé. C'est ce terme-là qui fait polémique ce soir. Là, vous l'entendez bien. Est-ce qu'à Mossoul ou ce qui s'est passé à Raqqa, vous auriez utilisé ce terme d'exterminé également ?
Écoutez, moi, dans les crises, ce qui m'intéresse, c'est qui sont les victimes ? Il y a effectivement des victimes le 7 octobre, qui sont des gens qui ont été massacrés dans des conditions effroyables. Et en face, vous avez une réplique qui multiplie les massacres. Alors effectivement, les massacres, c'est fait par des bombes qui sont lancées à 6000 mètres d'altitude. Quand on m'explique que c'est pour détruire les gens du Hamas, si vous voulez, moi, je ne connais pas de bombe qui fasse la différence entre une femme, un enfant et un combattant.
Ça s'appelle une guerre. Ça s'appelle une guerre, ça ne s'appelle pas une extermination.
Oui, mais madame...
Ça s'appelle une guerre, monsieur.
Madame, quand vous êtes dans la situation de faiblesse, prenons un cas très intéressant qui est celui
de
des Ouïghours.
Attendez,
prenons un cas très intéressant. Celui des Ouïghours. Ils ont fait un attentat terroriste sur la place Tiananmen, voiture piégée. Mm-hmm. Vous les qualifiez de terroristes ? Non, on dit non, c'est une guerre de libération. Les Français qui résistent aux Allemands,
c'est qualifié de terroriste. Non, 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 c'est vous qui qualifiez.
Non, mais je vous dis. C'est ce que vous insinuez là.
Bah oui, bien sûr que c'est un acte de résistance. C'est un acte de résistance effroyable, mais c'est un acte de résistance.
Vos propos sont effroyables, pardon.
Mais non. Enfin, écoutez,
c'est un acte de résistance. Dans la situation... Les actes du 7 octobre pour vous sont des actes de résistance.
Pardon.
Les actes du 7 octobre pour vous sont des actes de résistance.
Mais c'est un acte de résistance pour les Palestiniens. Si vous prenez pas les deux D'accord. aspects de la question, c'est-à-dire le point de vue israélien et le point de vue palestinien,
alors on ne peut pas vous laisser dire
attendez,
ça.
Attendez,
non, non, ça c'est pas possible parce que justement, on va l'aborder tout à l'heure. C'est exactement la définition de l'apologie du terrorisme. Vous ne pouvez pas aujourd'hui en France présenter les actes du 7 octobre comme des actes de résistance. Ça tombe sous le coup de la loi.
Mais madame, c'est pas grave qu'on m'attaque et qu'on m'aime.
Non, je vous attaque pas, je vous le dis, monsieur, vous avez une responsabilité, vous tenez des propos face à des auditeurs nombreux.
Quand vous avez un gouvernement qui autorise des juifs radicaux à s'installer en Cisjordanie avec des routes protégées par l'armée, c'est-à-dire qu'ils tuent l'État palestinien, vous ne pouvez pas ne pas le considérer que c'est un extrémiste. Donc Netanyahou est un extrémiste, simplement il a la force, et le fait qu'un extrémiste utilise la force ne le rend pas plus légitime que celui, le faible, qui va utiliser le terrorisme. Encore une fois, qui sont les victimes
dans l'histoire ? Donc vous mettez sur le même plan une armée régulière,
oui, qui bombarde,
un groupe terroriste. Le Hamas est un groupe terroriste pour vous ou un groupe de résistants, monsieur ?
Ben, c'est un groupe de terroristes. Mais encore une fois,
c'est
madame,
un groupe de terroristes ou un groupe de résistants ?
Le terrorisme est un moyen d'action, ce n'est pas un ennemi. C'est George Bush qui a inventé ça après le 11 septembre. Et rappelez-vous qu'il en a profité, alors qu'il y avait 15 Saoudiens sur 19 terroristes, il en a profité pour accuser l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Donc il faut arrêter de qualifier de terroriste. Ce n'est pas celui qui a le droit de qualifier alors, l'autre de terroriste.
Vous savez quand même que le Parlement européen a qualifié le Hamas de groupe terroriste.
On va arrêter sur ce débat. Il est clair que ce qui s'est passé le 7 octobre est un acte odieux de terrorisme.
Et ça
vous pouvez l'admettre.
Tout à fait. Oh. De même qu'un bombardement à 6000 mètres d'altitude sur un territoire qui fait la taille du territoire de Belfort.
Des viols, des femmes égorgées, des hommes massacrés, des bébés tués. Bon, il faut revenir à l'origine quand même. Au 7 octobre, à l'origine.
Mais quelle est l'origine ? Quelle est l'origine ? Est-ce que c'est le fait que Gaza soit devenu un ghetto ? Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous poussez les gens à se révolter, vous savez bien, quand il y a eu la révolte du ghetto de Varsovie, les Allemands n'arrêtaient pas de taper sur le ghetto. Quand finalement ils sont révoltés au point de se faire massacrer, il faut prendre les choses aussi dans leur continuité historique.
Vous parlez de la révolte du ghetto de Varsovie. Qui s'est révolté?
Pardon?
De quoi vous parlez exactement? Précisez.
On va parler de Sciences Po. On reviendra sur ce sujet quand même, parce que c'est important, l'apologie du terrorisme dans un instant. Sciences Po, occupé hier, des drapeaux palestiniens accrochés dans l'amphi extérieur, au site de Sciences Po, rue Saint-Thomas. Il y avait une soixantaine d'étudiants militants qui ont, selon la direction de l'école, contribué à un fort climat de tension pour les étudiants, les enseignants et les salariés de l'école, qui ont demandé à la police d'intervenir. Regardez la séquence. Mobilisation organisée par le comité palestinien de Sciences Po. Je ne sais pas si aujourd'hui un seul étudiant juif peut travailler à Sciences Po.
Non, bien sûr que non. Mais c'est la direction de l'école qui doit sanctionner ces types, c'est-à-dire qui doit les virer. Vous voyez, on n'est pas dans un système où on va se dire tout à coup, ils expriment une opinion. Non.
Elle a appelé la police.
Je sais bien. Mais il reste les sanctions qu'il faut prendre après.
Il y a quelques semaines, il y a déjà eu un incident, je vous rappelle, avec une étudiante justement de l'UGF. L'université a saisi la procureure. Cela dit, c'est vrai que c'est pas normal de laisser cette situation s'installer. C'est pas normal de laisser, quand on connaît le contexte explosif, de laisser Jean-Luc Mélenchon venir tenir les propos qu'il tient dans cette enceinte. On sait très bien que ça va encore attiser la haine. Mais aujourd'hui, ce qu'on découvre quand même, depuis quelques semaines, mois, c'est une radicalisation de la jeunesse au sein de Sciences Po, avec une cause palestinienne qui est montée en épingle par certains politiques qui viennent d'ailleurs attiser cette radicalité de la jeunesse à Sciences Po, mais comme dans plein d'autres universités françaises. À Nanterre, il y a aussi une radicalité très importante avec des croix gammées, une jeune étudiante qui s'est faite de sale juive crève. Voilà, à Toulouse aussi, on peut les multiplier les exemples ces derniers mois dans les facs françaises, d'élite ou pas d'élite, où il y a un antisémitisme rampant, et la cause palestinienne est justement l'arbre qui cache la forêt d'un antisémitisme primaire et profond, il faut bien dire.
sur Sciences Po, c'est devenu un nid de ce qu'on appelle islamo-gauchiste, en réalité.
C'est un nid d'islamo-gauchiste. Moi, je maintiens que ces étudiants ne défendent pas la cause palestinienne. Absolument pas, ils la desservent totalement. Ils donnent une image absolument catastrophique de cette cause-là. Et que, en revanche, c'est l'occasion pour eux de lâcher complètement un antisémitisme totalement débridé. Et juste un petit point, je m'interroge particulièrement sur Sciences Po, parce que j'ai mon cabinet qui jouxte les locaux de Sciences Po, et je vois et je passe tous les jours devant Sciences Po, et je sais qu'il y a de la sécurité. Donc je me demande comment finalement ces étudiants ont réussi à pénétrer de nuit pour installer des tentes et que sais-je encore dans l'enceinte de Sciences Po.
Muriel Wakin, vous êtes faites l'objet d'attaques de la part de LFI depuis quelques jours. Vous allez prendre la parole dans un instant. On va juste rappeler les principaux titres avec Simon Guillain, que je salue.
Bonsoir Olivier et bonsoir à tous. Une cour d'appel de New York annule la condamnation d'Harvey Weinstein pour viol et agression sexuelle et ordonne donc un nouveau procès. La cour a estimé que des erreurs de procédure avaient été commises. L'ancien producteur star d'Hollywood, âgé de 72 ans, avait été condamné à 23 ans de prison à New York. C'était en 2020. Les ailes du célèbre Moulin Rouge se sont effondrées la nuit dernière. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Les raisons de cet incident restent pour l'heure inconnues, mais la direction de l'établissement exclut tout acte malveillant. C'est la première fois qu'un accident de ce type se produit depuis la création du cabaret il y a près de 135 ans. Et puis le cinéaste Laurent Cantet nous a quittés à l'âge de 63 ans. Il avait notamment été récompensé d'une Palme d'Or en 2008 pour son film Entre les murs. Il est décédé d'une maladie, c'est ce qu'a fait savoir son agent aujourd'hui. Le réalisateur travaillait sur un projet de film intitulé L'Apprenti qui devait sortir l'année prochaine.
Merci beaucoup Simon Muriel Wakin. Donc je rappelle que vous êtes la présidente de l'OJIE, l'organisation juive européenne. Peut-être rappeler en quelques mots en quoi consiste cette organisation, cette association qui est composée d'une cinquantaine d'avocats, 55 je crois.
55, un peu plus de 55 avocats. On travaille ensemble les uns avec les autres depuis 10 ans maintenant.
C'est pas un cabinet.
Un cabinet, c'est une association à but non lucratif, loi 1901. On est tous bénévoles. On ne perçoit absolument aucune rémunération pour le travail qu'on fournit. Mais en revanche, on s'est tous beaucoup mobilisés. Justement, j'en parlais tout à l'heure, suite aux émeutes de 2014, quand on avait entendu pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale en France des cris de bord aux juifs résonner en France.
Bon, systématiquement, vous attaquez. Vous attaquez lorsqu'il y a des propos.
À chaque fois que des propos sont tenus et que ces propos-là sont susceptibles de provoquer à la haine, au rejet des personnes de confession juive, on dépose des plaintes lorsqu'on considère que les propos nous semblent suffisamment caractérisés pour aller devant un tribunal. Donc on dépose des plaintes, et notamment aussi en matière d'apologie du terrorisme.
Alors, vous venez justement d'obtenir la condamnation de Jean-Paul Delescot, qui est le patron de la Fédération CGT du Nord, pour apologie de terrorisme. Il a obtenu un an de prison avec sursis. Il avait distribué un tract où il était écrit... que le 7 octobre, et publié dès le 10 d'ailleurs, que le 7 octobre était la réponse à l'occupation d'Israël. Ça change quoi, cette condamnation?
Alors, on avait déjà obtenu des condamnations qui allaient à peu près dans la même direction. La justice en France a considéré, il y a fait une application normale du texte de loi qui prévoit qu'en fait, on ne peut pas présenter des actes de terrorisme sous un jour favorable, les présenter de manière... élogieuse ou dire simplement que ce sont des actes de résistance. On ne peut pas non plus légitimer les actes terroristes, et c'est pour ça que M. Delescot a été condamné notamment, parce qu'il a légitimé les actes du 7 octobre en mentionnant la politique du gouvernement israélien sur les années précédentes qui aurait conduit à justifier et à ces passages à l'acte terroriste-là du 7 octobre. Donc on est exactement dans ce contexte-là. Le tribunal a rendu une décision qui est absolument... très intéressante, en fait, parce qu'elle est très bien motivée et qu'elle nous donne les clés de compréhension de ce qu'est aujourd'hui l'apologie du terrorisme en droit français.
Et pour ces mêmes raisons, apologie du terrorisme, Mathilde Panot et Rima Hassan, candidate des LFI aux européennes, ont reçu une convocation de la PJ qui pourrait mener à quoi? Peut-être des poursuites.
Peut-être des poursuites, c'est le parquet qui décidera.
C'est vous qui avez déposé plainte?
On a déposé plainte contre ces deux personnes. Maintenant, par exemple, pour M. Delescot, on avait également déposé plainte, mais avant notre dépôt de plainte, il y avait un article 40 qui avait été fait par le préfet du Nord, et c'est sur l'article 40 du préfet du Nord que les poursuites avaient été immédiatement diligentées. Donc il n'est pas improbable non plus que pour Mathilde Panot ou Rima Hassan, il y a eu des articles 40 qui soient faits.
Bon, en tout cas, Rima Hassan vous pointe et vous menace personnellement. On va voir son tweet. Association OJDE, on n'en restera pas à l'absence de poursuites me concernant. Je ne connais pas la capitulation. Je vais vous traîner devant la justice comme on ne vous a jamais traîné, vous et vos complices. J'ai le temps et l'argent. Vos 50 avocats n'y feront rien. Et à son tour, Jean-Luc Mélenchon vous accusait, il y a deux jours, d'être une officine financée par l'étranger. Et on va l'écouter, c'était à Sciences Po. Alors, il vous nomme pas, hein, mais on sait de qui il s'agit.
Il se trouve qu'une association dont on dit qu'elle est directement financée ou en tout cas inspirée par le gouvernement de M. Netanyahou porte plainte systématiquement contre tous ceux qui leur déplaisent. Il paraît qu'il y a toute une liste de gens qui seraient poursuivis pour apologie du terrorisme. Et voilà maintenant une incrimination qui n'a pas le début du commencement de la moindre démonstration, qui vaut à Rima Hassan d'être convoqué. Il paraît-il qu'il y aurait aussi des députés, toutes sortes de gens, des étudiants de plusieurs grandes écoles qui se sont solidarisés contre le génocide. Je peux vous garantir qu'aucun d'entre nous n'a la moindre tentation d'apologie du terrorisme. Alors je suppose que mon nom va finir par apparaître dans une liste, peut-être, pour apologie du terrorisme. Vous viendrez à mon procès. Je ferai un magnifique discours sur la responsabilité morale.
Voilà, donc il vous accuse d'être à la botte de Netanyahou. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez ce soir à Jean-Luc Mélenchon ? C'est une accusation grave, de dire qu'on est à la solde d'une puissance étrangère.
C'est très injuste comme accusation. C'est très injuste parce que nous, ça fait 10 ans qu'on travaille. Ça fait 10 ans qu'on accompagne toutes les victimes d'actes antisémites en France. Et malheureusement, ces victimes-là, elles existent bien avant le 7 octobre. On est dans toutes les affaires à caractère terroriste, Hypercacher, Charlie, le Bataclan, aux Aratora Toulouse, Copernic, le procès Waffenkraft, l'attentat de Gerba avec la procédure à Tunis. On est dans toutes ces affaires-là aux côtés des victimes. C'est ce travail qu'on fournit depuis 10 ans. On dépose des plaintes régulièrement contre tous les antisémites, quel que soit leur bord politique.
Vous avez obtenu récemment la condamnation de l'imam de Beaucaire.
Oui.
Et du footballeur de Nice, Youssef Attal.
Oui, tout à fait, pour des faits d'apologie du terrorisme. Mais on a fait condamner Soral, on a fait condamner Rissen, on a fait condamner Dieudonné. On a tout ce parcours-là depuis 10 années. Donc c'est un vrai travail qu'on fournit. On est financé par personne. Je le redis, on est une association de loi 1901. On refuse toutes les subventions, que ce soit les subventions de la France ou les subventions éventuellement d'Israël. On n'a pas accepté, on n'en veut pas. On est totalement autonome, on est totalement indépendant, on est surtout apolitique.
Ah, vous n'avez pas de démarche politique. Parce que vous avez, on a ouvert un débat un peu partout à la suite de ces attaques en disant est-ce qu'il faut judiciariser le débat politique ? Vous dites, moi, il n'y a que le droit qui m'intéresse.
Il n'y a que le droit qui nous intéresse. Et quand on reprend, en fait, la loi, je veux le préciser pour que vos auditeurs le sachent et l'entendent et le comprennent. Le délit d'apologie du terrorisme, ça fait 10 ans qu'il est sorti de la loi dite de la presse, donc de la loi qui encadre la liberté d'expression. Ça fait 10 ans que c'est rentré dans le code pénal. C'est pas rentré dans le code pénal pour rien, c'est rentré au lendemain des attentats. Après 2012, il y a une réflexion qui a été menée. Monsieur Cazeneuve a proposé un texte, il a été voté. Et c'est pour ça que ça a été retenu, et c'est très bien. C'est ce qui nous permet aussi de faire une régulation des dangers terroristes qui pèsent sur la France. Les menaces terroristes sont importantes et cette loi sur l'apologie du terrorisme est là aussi pour baisser ce risque-là et pour ramener un maximum de sécurité en France.
Une question à l'un à l'autre. Est-ce que la judiciarisation de toutes ces affaires politiques en particulier est une bonne chose à votre avis ou au contraire c'est servir par exemple LFI ou le RN, parce qu'ils sont tous les deux dans un cas où ils vont être traduits par, poursuivis en tout cas par la justice. Tatiana.
La liberté d'expression est essentielle en France. C'est vrai qu'on peut se poser la question en tant que journaliste politique, est-ce qu'un débat politique doit être tranché par des magistrats ? Mais quand on voit les propos nauséabonds depuis le 7 octobre de LFI sur le massacre du 7 octobre, quand on voit les nombreuses outrances qui ont été faites par différents de ses membres, je pense à Rima Hassan, je pense au communiqué justement qui lui vaut d'ailleurs une audition à Mathilde Panot, le comité du groupe LFI, justement, juste après le 7 octobre, on peut se dire que c'est normal. Et surtout, je vais, moi, en tant que journaliste politique, suivre un principe très simple. Cette circulaire, ministre de la Justice du 10 octobre 2023, la tenue publique de propos vantant les attaques en les présentant comme une légitime résistance à Israël ou la diffusion publique de messages incitant à poster un jugement favorable sur le Hamas ou le djihad islamique devra faire l'objet de poursuites. Voilà. Bon,
bah, c'est Pierre connaît ça, à votre avis.
Laissons de côté le cas de notre leader de LFI, si vous voulez, lui, il est satellisé complètement. Mmh. Il ne demande pas mieux que d'être impliqué pour pouvoir faire cette tribune, si vous voulez, qu'il essaye de tenir depuis si longtemps. Il n'est même pas suivi par son groupe. C'est ça qui est très étonnant, c'est-à-dire qu'il a été tellement excessif dans sa manière de se comporter. Bon. Cela dit, moi, je reste, si vous voulez, encore une fois, sur quelque chose qui est une espèce d'analyse que personne ne veut entendre. Le terrorisme n'est qu'un moyen d'action, ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas parce qu'on dit cet acte est terroriste, ce n'est pas celui qui délivre le label de terroriste qui a raison. Encore une fois, si vous prenez le cas de l'occupation, les Allemands qualifiaient les résistants français de terroristes. Quand il y a eu l'insurrection en Algérie, on a qualifié le FLN de terroriste.
La résistance, ce n'est pas d'aller assassiner des civils et de les massacrer et de les ouvrir en deux.
Et voilà, monsieur, la guerre d'Algérie commence par les massacres de Kolo et de Constantine, qui ont exactement les mêmes caractéristiques.
On marque une pointe.
Juste une petite question, monsieur Connaissard, parce que franchement, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à vous suivre dans vos propos. Je suis très étonnée, en fait. Mais bon, une question. Si demain, en France, il y avait un attentat pour soutenir la cause palestinienne, qu'est-ce que vous diriez ?
Mais il devrait être condamné comme n'importe quel attentat, justement. Ce que je crains le plus, c'est que ces manifestations témoignent, c'est qu'il y a une espèce de guerre française contre les Juifs par des gens qui se prétendent soutenir la cause palestinienne, alors que ça n'a strictement rien à voir.
Allez, on va marquer une pause, on est obligé, et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. La suite du meilleur de l'info, avec toujours des images d'ailleurs des États-Unis, ça c'est Boston, il y a encore une fois une quinzaine d'universités où il y a des manifestations pro-palestiniennes. Je vais vous montrer quand même une image de la Sorbonne, c'était à l'extérieur de la Sorbonne avant l'intervention du chef de l'État, on a vu aussi des drapeaux palestiniens et des keffiyehs à l'appel du principal syndicat étudiant, l'Union étudiante. Rassemblement place du Panthéon pour demander à Emmanuel Macron de mettre fin au génocide en Palestine. Ce sont les slogans qui ont été employés. Bon, on va laisser ce sujet. On va essayer de voir ce que l'on retient du discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. Est-ce qu'il a cité une seule fois le nom de la candidate Renew, Tatiana ?
Non.
Ah. Pourtant, on avait dit discours de soutien pour lancer la candidature de Valérie Ayé. On est à moins de 50 jours. Hein. Bon.
Par contre, il a cité sans la nommer, mais en tout cas, il a lancé des flammes, on va dire, au parti du RN, au candidat Jordan Bardella.
Bon, moi, j'ai vu le discours d'un candidat à la présidence de l'Europe. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. On doit faire ceci, on doit faire cela. Une Europe de l'espace, une Europe de la défense, une Europe de la souveraineté agricole, la protection des frontières, la protection plutôt des mineurs face à la menace numérique. C'était le discours de nous devons. Vous savez combien de fois on a eu le discours papier tout à l'heure. On a regardé combien de fois il a dit nous devons.
Vous êtes un peu dur.
Nous devons.
Concrète.
Nous devons.
Pour une fois, il y avait des choses quand
même. C'est le discours du nous devons. On va écouter un extrait. Vous allez comprendre.
Nous devons être lucide sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Nous devons reprendre le contrôle de la vie de nos enfants et de nos adolescents en européen et imposer la majorité numérique à 15 ans. Pas avant. Nous devons systématiser le recours à des instruments de concurrence loyale. Nous devons intégrer des clauses miroirs dans nos accords commerciaux. Nous devons agir avec plus de fermeté en matière de retour et de réadmission pour toutes les femmes et les hommes qui arrivent sur notre sol et qui n'ont pas vocation à rester. Nous devons aussi nouer de nouveaux partenariats opérationnels pour lutter contre le trafic de migrants, la traite des êtres humains, le terrorisme, la criminalité organisée, le trafic de drogue, la haine et la criminalité en ligne sont des sujets sur lesquels nous devons renforcer l'action européenne.
Voilà, nous devons 44 fois, nous devons.
Non, vous êtes un peu dur, parce que très sincèrement, c'était un discours où il y avait une vraie vision, un cap, mais on sait que c'est de toute façon un Européen convaincu et qu'on combat depuis toujours.
Mais un cap pour quoi ? Pour quelle échéance ? Pour devenir quoi en réalité ?
Ça, c'est le problème par contre. Je pense qu'il s'est trompé de combat, si j'ose dire, parce qu'en fait, pour un Français qui n'est pas très intéressé, et Dieu sait si les Français ne sont pas très intéressés par les Européennes, a priori, en général.
Il y a un sondage qui a dit que 7 Français sur 10 n'étaient pas au courant qu'il y avait des élections.
C'est un discours qui était pas très accessible. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait assez de pédagogie. Il y a eu des choses concrètes, certes. Je pense notamment à l'Europe de la défense. Je pense en effet à la majorité numérique. Je pense au fait qu'il explique qu'en fait, on doit être dans une économie de guerre. L'Europe doit être aujourd'hui dans une économie de guerre pour faire face aux États-Unis, à la Chine, etc. Ne plus se cacher, justement, être protégé par les États-Unis. Et puis, avec par exemple, des idées très concrètes, un bouclier antimissile, une académie militaire européenne. Enfin, il y avait des choses très concrètes. Oui. Cela dit, est-ce que ça va aider des jeunes en particulier à aller aux urnes voter demain, le 9 juin ? Non.
Pas une voix. Je reconnais ça parce qu'il ne nous reste même pas une minute. Vous avez entendu.
Je suis d'accord, je trouve que c'est un discours programmatique. Si vous n'utilisez pas nous devons pour indiquer les sujets que vous pensez importants, je ne vois pas ce qu'il aurait pu dire. Non, moi je trouve qu'il s'est positionné sur un sujet pour lequel les Français, aujourd'hui, ont une espèce de réticence. Parce que effectivement, ils ont l'impression que ces choses se décident à Bruxelles, qu'ils en sont victimes, le libre marché, etc., enfin la concurrence internationale, ils en sont les victimes. Quand ils ont effectivement un président qui va essayer de se mettre comme le chef de l'Europe pour dire voilà ce qu'il faut faire, eh bien écoutez, il reprend le pouvoir par rapport aux bureaucrates de Bruxelles. Donc moi, j'ai trouvé que son discours était très bon.
Bon, donc un beau discours de nous devons.
Une personne qui l'a soutenu, oui.
Oui, mais je sais, encore une fois, hein, je ne sais pas si on a tous dit Emmanuel Macron reprend la main et relance la candidature ou lance la candidature, je ne sais pas, de sa candidate.
En fait, je pense que d'abord, sur le fond, c'est vrai que c'était un beau discours avec une vraie vision de
l'histoire. Bon, vous l'avez aimé.
Mais de façon stratégique, politiquement parlant, c'est vrai qu'il essaye en fait de ré-européaniser les enjeux parce qu'aujourd'hui, dans une campagne, les enjeux sont très nationaux.
Vous pensez qu'on fera référence un jour au grand discours, on fera un jour référence au grand discours de la Sorbonne?
Écoutez, je pense que ça parle quand même aux gens quand on leur explique qu'il y a la guerre en Ukraine qui est passée par là, qu'il y a la Russie aujourd'hui qui a une vision tout à fait d'empire qui veut s'étaler, etc. Que les États-Unis aujourd'hui sont dans tout à fait une autre problématique que l'Europe, qu'il y a une bipolarisation du monde, que le Covid aussi est passé par là, donc il y a une question aussi de souveraineté en matière de santé, souveraineté alimentaire. Je pense que ça parle quand même.
Allez, on arrête là ce soir. On arrête là. Merci beaucoup. Merci Muriel. Merci Pierre Collès. Merci Tatiana. Dans un instant, Soir Info, 22h30. Ça sera Julien Pasquet, 22h. Vous avez rendez-vous dans quelques minutes. Ok. Maureen Vidal. Je remercie Adrien Fontenot pour avoir aidé à préparer cette émission. On se retrouve lundi. Bye bye.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.